Je suis tout à fait.
Heureux de vous retrouver à nouveau pour ce partage et échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le 7 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'écrivain africain. C'est l'occasion d'évaluer la situation de la littérature en Afrique en général et en RDC en particulier. Partie d'une vingtaine d'écrivains connus en 1960, la RDC notamment connaît de nos jours un boom littéraire avec une production importante des livres. Mais seulement, selon certains observateurs, la publication ne nourrit pas son homme en Afrique tout comme en RDC. Plusieurs écrivains peinent pour exercer faute d'encadrement et d'accompagnement. Selon vous, quel avenir pour la littérature en Afrique et au Congo? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. J'ai dit Faisa Bongonda et au standard Dieudonné Nyangasa à la mise en onde de cette émission, supervisée par Martin Sebou Jangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avant d'ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui sont nombreux d'ailleurs à vouloir intervenir en direct, et aussi ceux qui ont émis le vœu de déposer ou de poster leurs commentaires sur notre page Facebook, nous vous en remercions tous. Et là, nous vous signalons que nous avons atteint pour ce sujet, sur notre page Facebook notamment, plus de 7000 personnes, mais au moins 3000 ont pu poser, en tout cas déposer leurs commentaires. Et une fois encore, nous vous en remercions pour l'intérêt que vous accordez à ce sujet. Nous recevons pour vous dans ce studio Richard Ali, écrivain et directeur de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles RDC. Richard, vous êtes avec nous. Oh, bonjour et bonne fête.
Bonjour, Sylvain. Merci beaucoup.
Voilà, vous faites partie de cette corporation, de ces corps, des écrivains congolais. Et c'est une fierté aujourd'hui. Nous sommes partis d'une vingtaine, je l'ai dit d'ailleurs au sommaire, en 60. Aujourd'hui, selon les estimations, selon les statistiques que nous possédons par, en fait, votre association qui est dirigée par le professeur Boabo Kayembe, on est déjà au-delà de 400, au-delà même de 500 écrivains, connus ou pas connus, mais déjà les estimations vont dans le sens de 500. C'est déjà énorme. Et on parle même d'un boom littéraire, parce qu'il y a quand même des productions, il y a littéraires. Mais la plus grande question, il y a eu au cours de l'année dernière, la 15e foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, FIDAC. D'ailleurs, la RDC a pris part à cette foire. Il a été décidé et demandé aux pays africains de pouvoir, formuler une politique nationale et élaborer un plan national de promotion du livre. Donc, on peut dire, le problème se pose avec acuité au niveau de l'industrie du livre en Afrique.
Évidemment, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. C'est une grande fête, c'était hier et sur le 7, et nous avons très bien fêté avec tous les écrivains du Congo Kinshasa. Je m'excuse un peu pour la voix, vous avez bien sûr compris. Et donc, les problèmes se posent avec acuité. Et les problèmes, on a compris qu'en ce moment, il faudrait que les politiques tournent leur regard sur cette situation. Vous avez compris qu'au Sénégal, on a compris qu'il fallait maintenant que tous les États africains puissent mettre sur table des politiques culturelles. Et ici au pays, il y a eu plusieurs assises auxquelles même moi-même, en tant qu'écrivain, je vais y apprendre part, où l'on devrait réfléchir sur comment promouvoir les secteurs ou l'industrie du livre au Congo. on est arrivé à un moment avec il y a une ministre qui est passée il y a 10 ans, je crois, et qui avait comme ça essayé d'instituer ce qu'on appelait la politique de la non-fiscalisation du livre, donc politique zéro fisc pour le livre, afin de pouvoir accompagner ou aider tous ceux qui travaillent dans l'industrie du livre ou sur la chaîne du livre. Et c'est là même le problème. Et c'est là où on continue de se battre. Pourquoi ? Parce que, voilà, vous avez dit, et c'est vrai, et c'est un constat que nous-mêmes avons vécu et que nous sommes bien sûr ceux qui ont combattu pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de ce boom littéraire au Congo-Kinshasa. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes dans ce mouvement littéraire. Parce qu'il y a ceux-là qui ont osé un moment, alors qu'il y avait léthargie, et qui aujourd'hui se sont dit, mais oui, voilà, il y a des modèles, et on emboîte les pas. Mais maintenant, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait des politiques qui puissent suivre. Si le privé se bat contre eux pour qu'ils arrivent à promouvoir le secteur, il ne reste plus qu'à avoir de mesures politiques, qu'il y ait de lois, qu'il y ait de politiques réelles pour accompagner le secteur afin que nous puissions évidemment et de manière pérenne promouvoir le secteur littéraire.
Alors parlons de maisons d'édition, parce que quand on parle du livre, on ne peut pas se passer de cette réalité, c'est-à-dire faire un tour d'horizon pour voir un peu à quoi ça représente des maisons d'édition, ici au Congo particulièrement, et en Afrique en général. Parce qu'on sait tout de même qu'aujourd'hui, pour publier un livre, c'est vraiment un parcours de combattant. Il faut aller vers l'édition Harmattan, il faut voir de grandes éditions, de maisons d'édition. Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur quelques maisons d'édition ? Parce que nous avons vu un phénomène qui a pris corps, c'est-à-dire chaque écrivain maintenant a sa propre maison d'édition. Oui. Quoique une maison d'édition de fortune qui n'a pas assez de moyens d'ailleurs.
Oui, en fait, on ne parle peut-être pas de dire que chaque écrivain a sa maison d'édition, mais ça ne s'est pas ici au Congo, hein. Donc ça s'est fait pratiquement partout ailleurs, à travers le monde. Les écrivains arrivent à un moment, parce que c'est vrai, le souci de tout écrivain, c'est de devenir un jour auteur, c'est de se faire publier. Et quand on a du mal à se faire publier, on recourt à ce qu'on appelle une auto-édition. Ça veut dire que je suis Richard Ali, j'ai fait un manuscrit, on tape ici, j'ai envie de me faire publier, mais je ne trouve pas d'éditeur. Qu'est-ce que je fais ? Je me renseigne que si je vais vers une imprimerie, on peut et publier un ouvrage, imprimer un livre avec, par exemple, $500. Donc, je mets la main dans ma poche, $500, et puis je suis imprimé. Donc, je fais ce qu'on appelle une auto-édition. Maintenant, ça peut bien sûr être de bonne qualité, mais trop souvent de mauvaise qualité. Et maintenant, les éditions sont là. Il faut quand même arriver à dire une chose qui est vraie, c'est que on n'a toujours pas encore
un bon nombre de
maisons d'édition. Imaginez-vous pour un pays comme la RDC, de plus de 110 millions d'habitants, nous ne savons pas, nous n'arrivons toujours pas à compter une dizaine de maisons d'édition réelles.
Mais la plupart sont
vraies. Alors, le privé sont là, mais les vraies maisons d'édition, ça veut dire quoi ? Une maison d'édition, c'est une maison qui investit,
qui répond à un certain critère,
qui se met dans le risque. C'est comme un producteur pour un musicien. Ça veut dire quoi? Je rencontre M. J.R. qui me dit qu'il a un talent, il est un écrivain, et je trouve que il a vraiment du potentiel, il a un bon manuscrit. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma main dans la poche en tant qu'éditeur et je finance la production de son livre. Ça veut dire que je prends toute la chaîne de production de son livre par ma charge. Et lui n'aura que ses 20% de droits d'auteur.
Alors, ça, parlons-nous clairement. Regardons-nous en face, mais vous êtes écrivain. Est-ce qu'aujourd'hui, la publication à RDC nourrit était son homme?
Non, je vous dirais, écrivain, la question automatique, non, jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile de retrouver à Congo Kinshasa un écrivain qui vous dira, écoute, j'arrive moi à me les débout de moi, de mon métier d'écrivain. Ça veut dire quoi? Que de retomber de mes publications. Non. Très souvent, le écrivain arrive à combiner. Et c'est tout à fait normal aussi. C'est difficile, même dans les grands pays comme la France, on n'arriverait pas à avoir 200 écrivains qui vivent de leur plume. Il y a ceux-là qui ont réussi et qui vivent de leur métier, mais c'est toujours difficile de les vivre.
Alors pourquoi vous n'avez pas pu capitaliser l'intention du gouvernement de vouloir amener l'industrie du livre à la fiscalité zéro, par exemple. Ça fait 10 ans. Comment vous n'avez pas, vous, les écrivains, pu capitaliser cette offre?
Non, mais les écrivains n'ont capitalisé jusqu'à arriver à avoir fiscalité zéro, 600 écrivains qui ont été dans ces assises-là. Mais cette mesure, je vais vous dire, cette mesure, on ne comprend rien par rapport à cette mesure. C'est qu'elle est toujours difficilement
appliquée.
Elle n'est pas appliquée. Le test doit trouver une cause. Mais quand vous allez pour voir comment les intrants pour l'imprimerie arrivent, là, ils sont toujours fiscalisés. Il y a toujours une imposition sur ça, il y a des taxes pour ça. Et pourtant, le test est là.
Donc, on comprend rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les livres de seconde main, par exemple,
voilà,
ils sont visibles que d'autres ouvrages,
tout à fait,
liés récemment.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est que l'on décrit un peu, en fait. C'est un peu ça le problème. Vous avez parlé de l'édition, je vais réviser ça parce que c'est important. Mmh. Nous avons, par exemple, quelques maisons plus que Mediapol et tout, Mediapol qu'on sort.
Mais. Depuis les Saint-Paul,
voilà, Mediapol, les éditions pauliniennes et tout, qui sont là et qui font quand même très bien leur métier.
Et même Wallonie et Roussel, vous faites quand même la promotion des livres.
Bien sûr, je suis directeur de la bibliothèque universelle et là, vous avez constaté, entre tout ça, ça constate que la bibliothèque universelle est parmi le premier, en tout cas sinon le tout premier qui accompagne d'une manière considérable la vie littéraire à Kinshasa. Et nos auteurs sont fiers de ça, ils sont heureux de voir que cette bibliothèque est vraiment à leur côté. Nous pensons que pour arriver à accompagner ce secteur, il faudrait absolument que le politique arrive à aucune subvention à certaines maisons d'édition privées qui se créent et qui sont installées dans le pays. Quand vous faites hésiter à l'extérieur, c'est bien bon. Mais quand le livre arrive au pays, il se fait que ce livre-là coûtera très cher. Et le petit peuple n'arrivera pas à se procurer.
Alors, on va voir s'il y a certains auditeurs qui nous ont déjà rejoints au studio, voilà, en ligne. Il est temps pour nous de récupérer quelques-uns, en rappelant tout de même que vous pouvez également participer à ce débat autour de la promotion des livres, la liste des livres. Aujourd'hui, c'est en rapport avec la journée de l'écrivain africain, voilà, de manière générale. Et puis, nous prenons des aspects particuliers de notre pays, en partant d'ailleurs de cette 15e foire international des livres qui s'est déroulé donc à Dakar au Sénégal, où il a été recommandé à chaque État africain pour faire la promotion des livres de pouvoir formuler une politique nationale et élaborer un plan national de promotion du livre. Vous avez suivi notre invité tout à l'heure avec quelques explications sur les maisons d'édition. Alors on va accueillir certains auditeurs tout à l'heure, mais notez que vous pouvez aussi faire le débat sur notre page Facebook. Voilà, on me fait signe qu'il y a Gracie Mazongo qui nous a rejoint et qui est à Kinshasa. Gracie est là?
Ah oui, je suis là.
Voilà, Gracie, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour chers auditeurs.
Voilà, Gracie, vous avez dit, pour vous, la littérature est une force pour l'évolution et la civilisation d'une nation. Alors, il va falloir que chacun de nous puisse mettre un peu la main dans sa poche pour arriver réellement à assurer la promotion des livres dans le pays.
Ah oui, ben c'est évident parce que, comme vous le savez avec moi, la littérature, depuis même Belle Lurette, depuis l'histoire même du monde, et quand on prend même la France comme exemple, la littérature a été une force, même pour la RDC, une souffrance que nous endurons, tous les problèmes que nous avons, politiques, économiques, mais la littérature peut toutefois régler ce genre de problèmes, et à mon avis, pour développer la littérature, ou soit donner à la littérature africaine en général et congolaise en particulier une sens et une valeur, il faudrait que les jeunes soient initiés en littérature. Et voilà, j'ai évoqué aussi un autre aspect, surtout qu'au Congo, la littérature devient comme si elle n'est réservée aux VA, c'est-à-dire aux gens plus âgés qui ont beaucoup d'argent et parce que les maisons d'édition sont plus chères et plus chères. Il y a peu de maisons d'édition. Même les jeunes ne peuvent pas se produire parce que, comme moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'articles que j'ai écrits. J'ai écrit des manuscrits, je les ai réservés à la maison parce que je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir. Et voilà. Donc, on pouvait, le gouvernement, en particulier, et même les autres personnels privés, pouvaient aussi initier les jeunes pour la littérature africaine. Nous avons des talents, mais sauf que ce sont des talents qui chantent parce qu'on n'a pas de moyens.
Oui, alors donc, si je comprends bien, Gracie Mazongo, vous avez appelé l'équipe Chassa pour vous. Vous avez l'impression que la littérature aujourd'hui est réservée à une certaine génération. Donc, ce n'est pas la génération actuelle, si je comprends bien votre intervention, tout en sachant que la littérature est une force pour l'évolution et la civilisation d'une nation. Vous inquiétez beaucoup plus le fait que aujourd'hui la publication ne nourrit pas son homme et toutes ces qualités littéraires que vous possédez personnellement, qui sont incarnées en vous, manque de soutien, manque de moyens, vous ne savez pas à quel point vous voulez donc pour permettre à ce que vous puissiez vous lancer dans ces domaines. Merci beaucoup, Gracie Mazongo. Alors David Mwanda, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le
journaliste. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait qu'aujourd'hui la littérature est réservée à une certaine génération?
Bon, moi, j'ai un peu un avis contraire face à cela. Et le constat que je fais, c'est que la littérature congolaise et africaine actuellement est en train d'être politisée. Vous voyez un peu, les écrivains actuels ne sont basés qu'à la politique et tout ce qu'ils décrivent ne concerne que la politique. Alors, c'est ce qui fait assez qu'ils perdent à défendre notre crédibilité parce que tout ce qu'ils disent est politique. Et la politique dont ils nous parlent est pleine de mensonges. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'ils disent.
Oui, mais David, l'écriture n'a pas de restrictions, n'a pas de limites. On n'a pas dit qu'il faut simplement écrire comme Kikuzanga Zamenga qui a parlé de Bandoki, qui a parlé de Koko Aluozi, pour ne citer que ce dernier. Mais voilà, donc l'écriture est plurielle, la lecture est plurielle aussi, parce que ça prend pratiquement tous les domaines, que ce soit le domaine politique ou encore le roman ou d'autres styles. Voilà, donc je crois que c'est pluriel.
C'est vrai, monsieur le journaliste. L'écriture aujourd'hui est plurielle, mais il faut aussi voir ce que vous dites. Par exemple, nos écrivains politiques actuels, ils écrivent de la politique, mais ce qu'ils écrivent, c'est plein de
mensonges. Oui, ça c'est un autre débat. David,
la littérature, oui, monsieur le journaliste.
Les contenus. Ça, c'est notre débat. Mais le vrai problème aujourd'hui, est-ce que la publication nourrit son homme? L'écrivain aujourd'hui en Afrique fait face à des difficultés, on le sait, mais est-ce qu'il y a des efforts qui sont menés en Afrique au niveau des États pour qu'on arrive réellement à faire la promotion du livre?
Il y a beaucoup d'efforts qui sont menés, il y a beaucoup d'efforts. Et moi, j'ai aimé vraiment parce que j'ai mon père qui est aussi écrivain. Il est là à Kinshasa, il travaille avec la maison d'édition Mediaspol. Alors j'ai vu que l'écriture en Afrique est en train d'évoluer et l'avenir sera vraiment meilleur. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont compris l'importance de l'écriture. Beaucoup de personnes ont compris qu'il est important d'écrire pour préserver à notre futur ce qui se fait actuellement. Et je vois qu'il y aura l'avenir de l'écriture en Afrique, qui est plus particulièrement ici au Congo, sera très meilleur parce que il y a vraiment de l'évolution. En plus, il y a beaucoup de réseaux d'édition. Mais ce qu'il faut faire, ce que moi je pourrais peut-être demander à notre gouvernement, c'est de soutenir les réseaux d'édition, voyez-vous. Quand un écrivain n'a pas de soutien, n'a pas de sponsor, c'est ça aussi le grand problème. Et beaucoup se découragent comme ça. Sur la ville, je connais des gens qui écrivent très bien. N'ayant pas de sponsor, ils arrivent à perdre leur texte et on ne sait plus comment les retrouver. Mais ceux qui écrivent, c'est bien. Alors, ce que je pourrais demander, c'est le sponsor, le soutien de la part des organisations, du gouvernement, de d'autres personnes pour aider maintenant ces journalistes, ces écrivains, excusez-moi, à ne pas leur travail.
Merci beaucoup, David, d'avoir appelé. Et là, vous nous avez situé dans les contextes sociopolitiques en disant qu'effectivement, en reconnaissant d'abord que l'écriture, elle est plurielle, mais aujourd'hui, vous déplorez une chose, le fait qu'il y a la facilité dans la publication que dans les domaines politiques, et ce qui fait qu'il y a un vide quelque part. Il faut beaucoup plus encourager même d'autres domaines à pouvoir être sur la sellette, et vous estimez qu'aujourd'hui, c'est vrai, le livre est la démocratie, et c'est bien, mais les livres et autres choses aussi, et ça aura pratiquement la même valeur ajoutée dans la civilisation et dans la modernisation. Merci beaucoup, David, d'avoir appelé de Kananga. Alain Bolojoie, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs, Alain.
Bonjour Radio Capti, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Alors vous avez dit, bien qu'en règle générale, les Congolais lisent en masse la Bible et le Coran, il faudrait tout de même reconnaître qu'ils souffrent d'une acculturation lecturale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, si vous vous prenez de manière générale, vous allez vous rendre compte que les Congolais n'ont pas cette culture de la lecture, en fait. Parce que généralement, c'est plus les affichés, les œuvres imprimées qui sont facilement lus. Vous voyez, il y a les banderoles, il y a les panneaux, il y a la publicité indirecte dans les documents, il y a les emballages. Mais au-delà de ça, voir les Congolais lire, de manière générale, c'est pas vraiment notre réalité. Et pourtant, nous savons tous que la lecture a des vertus, a des valeurs. Parce que par la lecture, il y a une sorte de transmission des informations, où on arrive à acquérir une certaine connaissance par rapport à la vision de l'auteur ou au contenu. Mmh. Mais malheureusement, nous n'avons pas su bien développer cela, et tout part déjà au niveau de l'école. Je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, on nous donnait certains ouvrages, et on avait toujours tendance à lire ces ouvrages un jour avant que nous allions à l'école. Et pourtant, il y avait d'autres informations, il y avait d'autres idées qui étaient développées. Mais malheureusement, ce n'était pas tout le monde qui avait accès à ces livres. Et aussi, on n'avait pas cette culture-là. Mais quand nous sommes arrivés au niveau des universités, eh bien, on s'est rendu compte que les écrivains ont un pouvoir sur nous. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de brassage ou d'acculturation, tout simplement parce que nous avons eu à lire certains ouvrages, à lire certains auteurs, et nous avons pris certaines idées fortes dans leurs ouvrages, et ce qui nous facilite aujourd'hui à avoir un modèle d'analyse, à avoir une autre manière d'appréhender les choses. Donc, ce qui veut dire que la lecture a une place de choix dans notre vie. Mais malheureusement, que ce soit l'intellectuel congolais, que ce soit le Congolais lambda, eh bien, nous n'avons pas su développer cela. Mais je voudrais quand même faire une corrélation entre le contenu du livre et la capacité de l'auteur à vendre son livre. Mmh. Comme l'a dit le prédécesseur, il y a une corrélation directe. Généralement, vous allez vous rendre compte que le Congolais aujourd'hui préfère ce qui est banal. Lorsque vous amenez des ouvrages du genre trop scientifique, et donc vous allez vous rendre compte que le consommateur sera moindre et par voie de conséquence, il y aura moins de gens qui vont acheter. Mais si vous prenez des histoires banales, telles que le conte, telles que la fiction, telles que le roman, on parle de l'amour et tout ça, et bien ils ont tendance à s'y intéresser, mais malheureusement, compte tenu de la contrainte budgétaire, ils préfèrent acheter des livres de seconde main que des livres qui viennent de sortir. Donc tous ces éléments font en sorte qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire la promotion du livre. Il a parlé du sponsoring. J'ai eu à écrire deux ouvrages de deux projets qui sont déjà finis depuis 2012. Un projet qui parle de la forêt, l'autre projet qui parle de la décentralisation, alors qu'à cette époque, le débat sur la décentralisation n'était pas encore, n'avait pas encore la couleur là aujourd'hui. Mais malheureusement, quand je suis allé vers les maisons d'édition, j'ai fait, comme vous l'avez cité, Armaton. On me dit, pour publier mon livre, je dois d'abord déposer le projet, un projet déjà fini, mis en forme, et tout. Je dois payer une caution, et au-delà de la caution, je devais attendre qu'on vende 501 livres pour que je puisse commencer à bénéficier de mon droit d'auteur. Mais pour vendre 501 livres, ça peut aussi me prendre 5 ans. Parce qu'il ne serait pas facile de voir des gens acheter mon livre. Mm-hmm. Donc j'allais travailler en vain, en fait. Mm-hmm. Et au final, on se rend compte que l'auteur ou la personne qui a pris plus de temps à mener ses recherches ne sera pas bénéficiaire de son produit. Mm-hmm. Et au-delà de ça, il y a aussi le piratage. C'est-à-dire qu'il y a possibilité aux gens de faire les photocopies et de les vendre à bas prix, tout simplement parce que vous n'avez pas la capacité de veiller sur votre droit d'auteur.
Avec le phénomène aujourd'hui, réseaux sociaux, Internet, on peut même télécharger par...
Effectivement, ce sont ces facteurs qui découragent, dans une certaine mesure...
Il y a une préoccupation qui me taraude un peu à l'esprit, Alain. C'est vrai qu'à une certaine génération, on était tous vraiment plongés à lire les sas, qui nous parlait pratiquement, qui nous donnait l'occasion de faire une plongée littéraire dans les domaines politiques. Il y a les Arlequins, il y a Agatha Christie, pour ne citer que ces livres-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est importation du livre? Hein, voilà, l'industrie du livre repose sur l'importation, où chaque fois on importe du livre, où nous devons aussi appliquer maintenant notre politique, notre stratégie, pour que nous aussi nous exportons nos livres, afin que voilà, qu'on puisse donner l'occasion aux autres quand même de découvrir notre culture.
Non, effectivement, voilà pourquoi j'encourage, je soutiens l'idée même de votre invité. Aujourd'hui, nous devons repenser notre politique d'enseignement, notre politique économique même. Si vous prenez, nous avons une grande forêt qui reste encore méconnue. Nous avons près de 450 tribus qui restent encore langues qui restent encore méconnues. Nous avons Nous avons plus de 250 langues qui restent encore méconnues. Mais si nous arrivons à promouvoir ou à vendre, à mettre nos idées dans les livres, eh bien il y aura certainement des gens qui vont consommer. Mais malheureusement chez nous ici, on n'a pas tendance à vendre notre image par les livres. On parle plus des individus, de leur prouesse, et on ne fait pas allusion à la culture, et malheureusement, même nos langues commencent à disparaître tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de support.
Si on arrivait
à écrire plusieurs livres dans nos langues, et bien cela va certainement attirer les autres pour chercher à connaître en profondeur ce que nous représentons sur le plan culturel, et que là, c'est certainement vendu.
Merci beaucoup. Ça va nous aider. Merci beaucoup, Alain. Il y a un travail de fond qu'on doit faire, vous, en tout cas les écrivains, et tous ceux qui, en fait, sont épris de la littérature pour arriver quand même à ce résultat, arriver à renverser un peu la tendance où chaque fois que nous importons les livres, c'est comme nous avons dit, il y a beaucoup de livres de seconde main, comment arriver à exporter nos produits, nos ouvrages. Voilà, donc il y a un travail de fond, mais il y a une difficulté que venait d'annoncer Alain tout à l'heure en évoquant la mise en forme, il faut payer une caution, vendre déjà au préalable 501 livres, donc c'est énorme, c'est, donc pour dire, c'est déjà cette difficulté.
Tout à fait, je remercie beaucoup notre cher ami auditeur Alain pour son intervention assez pertinente. Récemment, je voulais prendre le dernier élément qu'il y a à relever et que je trouve aussi intéressant, celui de la langue, de l'écriture. Aujourd'hui, certains comprennent, être écrivain ne veut pas dire écrire en français. Être écrivain, c'est celui qui écrit. Et moi-même, je parlerai un peu de moi en exemple. Je vous dis aujourd'hui de publications qui sont sur le marché. Et le dernier livre en date que j'ai écrit et qui est en plein succès ici à Kinshasa, en RDC, même à l'étranger, a été écrit entièrement en Lingala. Un roman en Lingala. Je n'ai plus besoin de suivre sur la radio Capi. Donc, c'est dire que les amis qui écrivent peuvent aujourd'hui écrire dans leur langue maternelle possible pour essayer de promouvoir aussi notre identité culturelle. Maintenant, il y a une chose qui est encore dite et que là, je voulais un peu essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Écoutez, c'est pas intéressant de continuer à répéter les stéréotypes qu'on nous a donnés, qu'on nous a dit depuis la tendre enfance. Dire que le Congolais ne lise pas, dire que les Africains ne lisent pas, je vous dis, mes stagiaires, ce sont des stéréotypes, ce sont des préjugés. J'arrive aujourd'hui à être directeur de la bibliothèque en Bruxelles, je suis président de l'association des écrivains du Congo. Je vous dis, et je l'ai toujours dit, les Congolais lisent. Regardez par un simple exemple. Vous avez donné le message par Facebook qu'on parlera littérature. On nous dit que vous êtes arrivé à tenir plus de 7000 et que 3000 ont réagi. On va faire une petite expérience. Rendez-vous compte, dans votre milieu, c'est la radio Capi. Vous serez entre vous à 5. À 5, vous direz, mais tu sais, mon ami, nous, à l'époque, on lisait. Hein. Tu verras notre là. Bon, si j'ai lu, on lisait, mais les autres ne lisent pas. Tu verras vers ces autres-là qui tu penses qu'ils ne lisent pas. Il te dira, je lis aussi. Mais en taxe, c'est qui? Souvent, c'est nous-mêmes. On continue à lire.
Non, mais il y a cette démarche de l'encadrement au niveau des jeunes, au niveau des écoles. Il y a un travail qui doit être fait quand même au niveau des écoles, au niveau de la convention même, la convention des écoles, que ce soit catholique, kimbaliste, salutiste ou autre. Parce qu'à l'époque, moi j'ai encore bonne mémoire, au collège Elika, d'où je suis sorti, au collège Boboto, il y avait un journal de l'école. Et on a créé une émulation. Déjà au niveau de première année secondaire, on avait droit
de publier un article dans ce journal-là. Donc le problème ne se posait pas. Et on donnait déjà vous aux enfants, aux élèves, aux écoliers, de pouvoir, disons, aimer la lecture, aimer l'écriture.
Exactement, mon frère. Ce que j'ai dit est d'ordre mental et psychologique, en fait. Vous évoquez ce que vous faisiez à l'époque, on s'est dit, tiens, moi, avant d'écrire la Société des écrivains du Congo ou d'écrire de livres, je lui ai écrit au Collège Séraphin un journal mural. Voyez-vous ? Et après, à l'UPC, j'ai créé encore un journal mural. Et aujourd'hui, j'ai créé cette chanson et d'autres revues littéraires. Ce que j'ai dit est d'ordre psychologique et mental. Ça veut dire quoi ? Le fait pour nous, Africains, hommes noirs, Congolais, je cite, de continuer à répéter à longueur de journée qu'ils ne réalisent pas, cela fait en sorte que nos
pays font évidence.
Voilà, cela fait en sorte que nos pays font voilà, et c'est de se dire, ok, nous, c'est juste qu'on ne lit pas. Donc, ce n'est pas important. Mais répéter, c'est juste. Inverser, c'est juste en contre-exemple. Allez même en France aujourd'hui, lisez leurs publications. Ils se plaignent que leurs jeunesse ne lisent pas.
Oui, tout à fait.
Mais nous-mêmes, si on dit non, en France, on lit. On lit.
Non, non, okay. j'ai vu un Belge qui ne sait pas écrire. Voilà.
Donc, je pense que
ne sait pas écrire.
D'ordre psychologique et mental, changeons le terme. Changeons la pensée. Commençons à dire que les Congolais aiment lire.
Mais les vrais problèmes de moyens, quand on sait écrire, on sait lire. Voilà, donc on n'est plus analphabète, on sait écrire.
Oui.
Mais ce n'est pas que tout le monde a le talent de l'écriture.
Et non, l'écriture, c'est un don. Exactement. Et là, je voulais absolument encore sur un point, alors que notre ami parlait de ce projet de publication. On parle ici, Journée mondiale de l'écrivain, on parle de la littérature, de belles lettres. Il faut arriver à faire le distinguo entre les œuvres, entre les essais et les œuvres de fiction. Ok ? Donc, ici, on parle vraiment, je pense, de ceux qui font en train de travailler pour les œuvres de fiction, imaginez. Donc, le vécu, les démons et tout, qui créent ce bas de rire. Voyez-vous, et c'est de ça qu'on parle. Donc après, on peut amener le débat plus loin, à parler avec les auteurs, sur le livre en général. Et je pense que là, après, c'est même que notre ami de Mouvement, je voulais parler lui de ce qui touche la politique. C'est toujours des essais. Voyez-vous, il faut qu'on arrive à voir un peu. On a commencé avec 20 clients au départ.
Aujourd'hui, on est là du
système. Plus d'un millier qui écrivent de manuscrits dans leur soir. Et je pense que l'avenir est.
Mais c'est quand même triste quand un jeune qui écrit, qui va solliciter les sponsors d'une maison d'édition, les conditions qu'on lui donne, ça ne lui permet pas, ça l'encourage pas.
Non.
La mise en forme d'abord, il doit prendre en charge la mise en forme, il doit payer une caution, il doit vendre au moins 501 livres. Je crois que là, c'est les yeux de la tête.
C'est une politique lamentable qu'on essaie de décrier sur l'Armatan, sans loin de dire. Et même ceux qui répondent à l'Armatan, Kinshasa le savent. Je les ai plus d'une fois invités dans une conférence qu'ils organisent sur Kinshasa. Ils ont un peu du mal à s'expliquer quant à ces mains. C'est leur politique. Et l'Armatan, c'est leur politique.
Et quelle est la politique que vous imprimez, vous, au niveau de Wallonie-Bruxelles?
Oui, il faut préciser, Wallonie-Bruxelles n'a pas encore une maison d'édition. Wallonie-Bruxelles a une délégation qui a un centre culturel et une bibliothèque. Et cette bibliothèque-là s'engage, c'est mais jour et nuit à promouvoir les activités littéraires, notamment à accompagner les auteurs pour leur présentation de leurs livres, notamment en organisant de cafés littéraires, des débats autour de livres,
les vernissages
et tout ça. Nous venons récemment, vous avez vu hier, on a organisé une grande journée littéraire pour la célébration de la journée de l'écrivain africain. Et ensuite de cela, la bibliothèque a lancé
un avec une problématique très pertinente
avec la Société des écrivains du Congo, la LEF, le premier prix, le prix Thérèse Zamenga, qui aujourd'hui
est en train de. Pourquoi avoir choisi simplement Zamenga?
Une belle question, et j'en profite sur le micro de notre grande radio Radio-Capi. Pourquoi le prix Zamenga? On me l'a demandé lors du lancement de ce prix. J'ai dit simplement, il n'y a pas beaucoup de débats à faire sur ces. La littérature au Congo est en train de. On se bat pour la promouvoir. Et ce n'est pas encore comme le football, voyez-vous, comme la musique au Congo. Et donc, l'avantage qu'on a sur Zamenga, c'est que c'est le client le plus populaire au pays. Et ça, c'est sans conteste. Voyez-vous, si vous allez dans la rue et que vous abordez un néophyte profane en matière de littérature, vous lui demandez, vous connaissez un écrivain? Il vous dira, je vous l'en confie aujourd'hui, il te dira Zamenga. Et il peut même citer Mano, ou un coco à l'eau.
Un coco à l'eau,
c'est vrai. Et même le logo du prix Zamenga, c'est un coco. ça soit fait le concours de l'OSI. Et donc, c'est juste sur base de ça, on s'est dit, pour mettre un prix du terrain, où on n'aura pas à beaucoup s'expliquer pour dire que non.
Alors, il faut un soutien national,
évidemment.
Un soutien national,
évidemment.
Il faut un soutien du ministère de la Culture et des Arts, pour qu'on puisse vraiment s'en approprier,
tout à fait,
et que ce soit un prix littéraire, réellement littéraire.
Oui, c'est un prix qu'on le veut vraiment comme un grand prix littéraire, puisque le premier de ces concours, coûtera une petite collation de 1000 dollars, le deuxième aura 500 dollars, et le troisième 300 dollars, c'est là chaque année. Déjà, on a commencé, on a lancé hier, et la réception des textes s'est faite à la bibliothèque Colonel Bruxelles, juste au 31.
Nous en parlerons dans une autre émission prochainement. Mais les débats, le moyen, le prix à organiser, ça demande quand même. Là, je reviens encore sur la foire de Dakar l'année dernière. Une année après, c'est comme si les États africains ont du mal aujourd'hui à accomplir certaines choses, parce qu'on a dit qu'il faut accorder un statut prioritaire au secteur du livre, notamment des facilités de crédit, parce que ça revient encore avec les booms économiques au niveau des banques, exemption des droits et taxes, vous avez déjà reçu la fiscalité zéro, traitement préférentiel en matière fiscale et approvisionnement en matière plénière, aménagement de moyens de formation, et puis faciliter la participation des maisons d'édition privées, comme des maisons d'édition publiques, à la production et à la diffusion des manuels scolaires destinés au secteur de l'éducation, assurer la formation dans les métiers du livre, éditeur, illustrateur, maquettiste, compositeur, imprimeur, enseignant, libraire, distributeur, bibliothécaire, bref, tous ces partenaires qui entrent dans la promotion du livre. Merci beaucoup, on va prendre une deuxième série des auditeurs qui participe à ce niveau de débat. Maître Dominique, vous êtes en Boujimaï, confiance à KMPC, et Maître Omar Akinchassa. Maître Dominique, bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Est-ce que vous partagez l'avis qu'aujourd'hui, c'est vrai, la publication ne nourrit pas son homme, et parce que il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne des comptes qui ne sont pas en faveur de l'écrivain africain en général et de l'écrivain congolais en particulier?
Oui, ce qui est vrai, la publication ne nourrit pas son créateur. Pourquoi? Parce que lorsque l'on veut se mesurer avec l'Occident, le monde de la littérature par excellence, écoutez, vous aurez toujours des problèmes. Hein? Nous sommes à nos débuts, nous devons nous considérer comme tels et faire des histoires à notre niveau. Lorsque vous voulez produire aujourd'hui un ouvrage, le mettre par exemple, lui donner un prix de 100 dollars, qui va l'accepter, qui l'achètera? Donc directement là, vous tombez dans ce que l'on dit qu'un noir, si vous voulez lui cacher quelque chose, mettez-le par écrit. Voyez-vous, quand vous mettez à 100 dollars, le coût de vie du Congolais, le coût de vie de l'Africain, il est de combien? Quand il va sortir 100 dollars pour acheter un livre, pour lui, c'est déjà un luxe. C'est déjà un luxe. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des gens qui sont en train de copier, de recopier, de photocopier des ouvrages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour accéder à ça. Or, nous devons normalement avoir accès, comme l'a dit notre invité aujourd'hui, qu'il y a autant qui ont réagi sur Facebook. Écoutez-moi, et ça encore, hein, on est en train de tuer encore la littérature. Si vous allez sur Facebook, vous prenez le téléphone avec ces histoires de textos, carrément on nous a retourné à l'histoire de Pilipili et Matamata, où les jeunes gens aujourd'hui ne savent pas vous écrire une lettre. Aujourd'hui, les jeunes gens ne connaissent pas une lettre, la première lettre, on ne la connaît plus. On l'utilise par contre dans autre chose que si pour prendre du chanvre et non pour écrire une lettre.
Voilà, maître Dominique, je sais pas si vous avez fait pratiquement le même constat. Je crois que dans la plupart des internautes qui nous ont envoyé leur message, il est dit qu'il y a un phénomène aujourd'hui. On a l'impression que le phénomène bouquiniste, c'est comme ça qu'on l'appelle, les gens qui vendent des ouvrages, des livres à même le sol, ils ont pratiquement dessus sur certaines librairies, qui n'existent même plus à
l'époque, je vois avec une revue Mwanamboka publiée par la petite édition qui à un certain moment commençait quand même à perdre la fierté. Du coup, et puis
c'est pas le problème. Aujourd'hui, oui. Quand je vous parle là, je suis dans une bibliothèque au centre biblique où pour donner le goût à la lecture de la Bible, on appelle les gens gratuitement à lire les tirés à part. Ils lisent à la fin de 3-4 lectures, 4 leçons, ils auront une Bible gratuitement. Imaginez nous avons un ministre de culture et des arts, comme on l'a dit. Quelle est sa politique? Quelle est sa vision? Parce qu'à l'heure actuelle, on doit stimuler, monsieur Giret, moi qui vous parle, j'ai écrit 5 pièces de théâtre jouées ici au Congo, à Kananga, à Lubumbashi, à Tamina, mon fief, où j'ai étudié. Déjà en 1987, j'avais écrit une pièce de théâtre. Déjà en 1987. Donc de 87 à 90, j'ai publié 5 pièces que l'on joue jusqu'à aujourd'hui. Mais ce théâtre-là, aujourd'hui, personne ne l'a fait. Le théâtre classique, vous avez aujourd'hui les sketchs que tout le monde apprécie. Oui, nous pouvons prendre ces sketchs-là comme théâtre. Nous avons un monsieur Naboulette à Lubumbashi. Ce monsieur-là est en train de véhiculer une certaine culture, permettez-moi, une certaine culture Luba. Mais qu'est-ce que l'on fait de lui? Qu'est-ce que l'on fait de lui? Hein? On laisse les gens vaille que vaille, chacun fait ce qu'il veut.
Donc,
maintenant, nous ne savons plus où aller. Oui, pourquoi?
Voilà. Merci beaucoup, maître Dominique.
S'il vous plaît,
oui, on va quand même laisser les autres aussi, hein. Vous avez utilisé quand même plus de 2 minutes, le temps qu'on accueille et puis confiance. Mais confiance, vous intervenez depuis Kim Pété. C'est vrai, aujourd'hui, on peut compter quand même des grands écrivains. À l'époque, on a connu Eli Kambokolo. Aujourd'hui, on parle de Tshibanda. Tshibanda, que les jeunes découvrent à peine par les comptes qui fait au niveau de l'Europe. Mais il est parti d'ici, à Lubumbashi. Et puis, bon, finalement, aujourd'hui, il est d'une renommée littéraire, international. Donc, je crois qu'il y a quand même des valeurs. Est-ce qu'il faut seulement attendre qu'il y ait des fuites de cerveau pour que, finalement, nous découvrons nos talents, ou il est temps maintenant que nous puissions, chacun, entre ceux qui ont des moyens, des brassicoles, ceux qui ont l'habitude de sponsoriser des grands événements, tout ça, pourquoi ne pas accompagner le Wallon de Bruxelles, l'Armatan, ne puisse que compléter ou supplier, hein, apporter quelques subventions ou subsides pour arriver quand même à aider l'écrivain africain ou l'écrivain congolais et confiance. Est-ce que vous avez quand même des analyses qui vont dans ce sens-là?
Oui,
confiance.
Oui, allô.
Oui, allez-y.
Oui, bonjour, Mbote Djambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix. En fait, il est vrai que la publication ne nourrit pas son homme. Pourquoi? Moi, je pense que, comme dans tous les autres domaines de l'écriture, subit aussi la loi de l'offre et de la demande. Il est inconcevable que nous puissions penser à la promotion du livre sans se battre à promouvoir l'écriture. Et moi, je pense que, comme j'ai introduit mon idée, on ne sait pas vendre l'écriture s'il n'y a pas de lecteurs. J'aurais souhaité que notre État travaille aussi, et surtout dans le sens de la subvention du livre. L'organisation des prix peut être décernée à toute personne qui fait un effort pour rendre cette œuvre d'esprit matériel ou concret, hein, qui permet pas qu'il y ait toujours de fuite des intellectuels. Mais j'aurais souhaité que nous fassions un effort aussi dans la révision de notre système éducatif qui ne promeut pas la lecture ou l'écriture. Je proposerais pour promouvoir le livre à l'État congolais d'être d'abord propriétaire d'une grande maison d'édition qui va être d'abord le premier acheteur des œuvres de l'esprit et contribuerait ainsi à la promotion des auteurs. Donc voilà ma façon de voir les choses, à moins qu'il y ait autre chose.
Merci beaucoup, confiance. Donc là, vous encouragez, vous plaidez pour que les gens puissent quand même penser à une maison d'édition publique qui encouragerait les jeunes talents ou les jeunes écrivains afin qu'ils soient dépourvus de moyens, en fait, pour qu'ils aient quand même droit au chapitre. Merci beaucoup. Maître Omar, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, J.R. Longondo. Merci du verbe que vous m'accordez.
Et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci beaucoup, J.R. du verbe. Comme tout le monde, je tiendrai aussi à responsabiliser les ministres de la culture. Vous savez, J.R., la culture est un tout. Elle renforme à la fois la musique, la peinture, la sculpture, même la littérature. Et on a comme l'expression en Afrique, la culture se limite à la musique et au théâtre. C'est dangereux. Alors, pour répondre à la question principale de l'émission, je dirais, comme tout le monde, que la littérature ne nourrit pas son homme au Congo. Et pour ne pas revenir à ce qui a été déjà dit, je pense que la plus grande cause, c'est d'abord le manque de politique culturelle. Vous l'avez dit, c'est une chose importante. Nous, quand on était écolo au niveau des écoles, il y avait des travaux de description. On vous demande d'aller lire un roman, de l'exposer, de résumer. Les histoires n'existent plus. Et quel est le budget qu'on alloue au ministère de la Culture? Ça aussi est un problème. En France, par exemple, le ministère les plus privilégiés, c'est le ministère de la Culture, qui a le plus gros de budget, pour les journalistes. Mais ce n'est pas le cas de notre pays. Comment voulez-vous qu'on puisse promouvoir la littérature si le ministère qui n'est pas assez financé? Et autre chose, l'invité a semblé l'ignorer. C'est un problème culturel très sérieux qu'on doit combattre. C'est le dégoût culturel. Les Congolais n'aiment pas lire, je l'affirme. Pourquoi? Allez même sur Facebook, essayez de publier une pensée. Personne ne va commenter. Mais lorsque vous publiez une photo, tout le monde va commenter. C'est un problème culturel sérieux. Autre chose, il y a un problème de contenu. Lorsqu'on ne lit pas, il faut savoir aussi ce qu'on présente au public. Vous voyez seulement le syllabus des universités congolaises. Ce sont des copies collées des blancs. Vous allez voir des professeurs juristes qui reprennent ce que les juristes et français ont écrit. On n'invente rien. Et lorsqu'on fait du déjà entendu, du déjà vu, qui va vous lire? Il y a un problème de forme aussi. Quels sont les gens littéraires qu'on présente? Est-ce que les écrivains savent différencier? Il ne suffit pas d'écrire, il faut encore avoir un style. Est-ce un roman que vous écrivez? Est-ce une poésie? Est-ce un drame? Est-ce un conte? Est-ce que c'est un essai? On doit former les écrivains. Dès lors, il y a une maison d'édition qui vient. La Martin, quelqu'un a dit on demande beaucoup d'argent. Mais il y a aussi un programme de la Martin qui soutient les écrivains lorsque le travail est bien présenté. Et enfin, je voudrais finir par le manque de moyens et aux écrivains et à ceux qui doivent acheter les livres. Moi-même qui vous parle, j'ai publié, je crois, en 2010, un livre sur le droit des artistes congolais. C'est la radio Capi à l'époque avec M. Jean-Marc qui m'avait accueilli. On a lancé des demandes, personne n'a soutenu. Il y a un problème sérieux de manque de moyens. Beaucoup de Congolais ont des idées, beaucoup peuvent écrire, mais on ne les soutient pas. Et je pense, j'y ai rapidement, les solutions sont simples. Premièrement, il faut commencer par la première chose, la prioritaire à faire, c'est sensibiliser les Congolais à la culture de la lecture. Au niveau des écoles, comme vous l'avez dit, qu'on incite les gens à écrire, il y avait des journaux des écoles qui n'existaient plus. Qu'est-ce qu'il faut les inspecteurs? Deuxièmement, et ce qui est aussi important, il faut financer le secteur littéraire. Il faut qu'on arrive à créer même de crédit. Ailleurs, par exemple, il y a une maison d'édition nationale qui existe. Et chacun amène ses projets. Il y a une étude d'experts qui étudie. Si on se rend compte que le projet est bon et qu'il répond aux critères littéraires, on peut le financer. Car si le corps s'est nourri de la nourriture pour vivre, l'esprit s'est nourri de la lecture. Et enfin, il y a aussi un problème sérieux qu'on a négligé, c'est le problème de la contrefaçon. Il existe toute une loi qui punit les violations des droits d'auteur. C'est l'une des causes qui appauvrit davantage les lecteurs. Est-ce que la police culturelle fait son travail?
Oui, alors, c'est pas son travail. Alors, Maître Omar, il y a un auditeur qui a ajouté à ce que vous venez de dire le rôle que doit jouer aussi l'Union africaine dans la promotion du livre et de la lecture qui devrait en tout cas encourager les jeunes écrivains. Oui, c'est une autre politique qui doit être imprimée aussi du côté de l'Union africaine, parce que c'est quand même une force aujourd'hui.
Exactement, J.R. Lorsqu'en 2009, au Dakar, Sarkozy a dit que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire, on s'est mis à se moquer de lui, on a vu cela de façon négativiste. C'était une façon de dire qu'il n'y a pas assez de politique culturelle pour promouvoir l'Afrique. Est-ce qu'il y a des coopérations culturelles? On a fait mal de réunions pour aller soutenir les accords. On a des réunions diplomatiques, mais on a des réunions de stratégie pour arrêter la culture africaine. Et voilà pourquoi je soutiens un écrivain qui a dit « L'Afrique manque d'Africains, on se fait un afro-pessimisme ». Je pense qu'au niveau de l'Union africaine, j'ai des vraiment ici beaucoup de traités qui font la promotion de la culture. mais il n'y a pas de politique au niveau interne. C'est très tôt obligé à chaque État africain de prendre des mesures coercitives, des mesures structurelles pour promouvoir la lecture, qui est, n'est-ce pas, un aspect important. Mais au niveau interne, est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre cela? Tout relève, j'y ai, de la bonne volonté de ceux qui dirigent, à savoir le ministère de la Culture qui doit soutenir et aussi à l'octroi des crédits de ceux qui écrivent, mais aussi à la sensibilisation des Congolais qui doivent lire. Je pense qu'en faisant cela, on pourrait n'est pas
faire la. Merci beaucoup, Maître Omar. Alors, ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu et Docteur Rocky. On va vous accorder à chacun une ou deux minutes. Et puis, bon, on va conclure avec notre invité. Ingénieur Valérie, bonjour.
Oui, bonjour, Roger. Bon, merci beaucoup pour m'avoir passé la parole et bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Bon, voilà, moi, je pense que le problème du livre, quand nous parlons du livre, il n'y a pas que les œuvres littéraires. Parce que même les publications des posters et autres, ce sont des livres.
Vous m'avez donné des livres d'ailleurs.
D'abord, s'agissant des œuvres littéraires, par exemple, moi je dis que c'est tout récupéré, c'est que nous avons perdu. Parce que moi je me rappelle, lorsque moi j'étais encore aux Humanités, on pouvait jeter à l'Athénée de l'Emba là-bas, les préfets nous sensibilisaient pour que nous allions à la salle des eaux, suivre les sacrales de Mutombo-Bichi. On y allait, je demandais l'argent à mon père, j'y allais, je rentrais. Après, je suis allé faire la section scientifique maths physique à des bonhommes, mais on avait un salon littéraire dans une section scientifique maths physique. Ce salon s'appelait la plume sacrée avec un petit manga. On allait là, on a beaucoup de choses, et aujourd'hui, je n'ai jamais été complexé dans les débats, même si on a l'habitude de dire que les techniciens sont des gens qui fuient les débats, mais moi, je n'ai jamais été complexé. C'est à cause de la base que j'assise d'abord aux humanités. Alors, moi, je me dis, c'est cet allure que nous devons récupérer. Comment récupérer? Premièrement, il va falloir que l'on puisse bien renouer avec l'étude de la langue. Parce qu'avant d'écrire, on doit connaître la langue. Or, nous voyons que même quand vous allez à l'IPL ou à la faculté des lettres, il y a très peu de gens qui font encore les études à caractère linguistique. Parce que, si vous ne payez pas bien, il n'y a pas assez de licenciés en français. Ce sont des juristes et des sociologues qui commencent à donner les cours de français sans méthodologie, sans quoi ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on puisse un peu tout réhabiliter. J'en appelle au ministre de l'Éducation, en fait, il puisse aussi quand même améliorer cet aspect.
Voilà, il y a quand même un aspect transversal. Il y a l'éducation, il y a la culture, il y a un peu de tout ça. Merci beaucoup, Valérie. On va prendre quelqu'un qui vient, un écrivain congolais qui séjourne là actuellement au Cameroun, Monsieur Fouillé. Monsieur Fouillé est en ligne.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà, malheureusement, on n'a plus assez de temps. Juste une ou deux minutes. Pour vous, aujourd'hui, c'est vrai, la situation que traverse l'écrivain africain en général et l'écrivain congolais en particulier, en marge de cette journée internationale de l'écrivain africain, que faudra-t-il faire pour arriver réellement à changer la situation de l'écrivain africain? Et aussi lui apporter quand même du souffle pour finalement qu'il puisse quand même bien faire son travail.
Ah, je vous remercie parce que vous posez là une question fondamentale qui concerne le destin de toute une nation. Sénèque disait, tout est dans les idées. Tout est dans les idées. C'est lorsqu'on accorde beaucoup d'importance aux idées qu'un pays se développe. Or, les idées viennent d'où? Les idées viennent du livre, c'est-à-dire de la lecture. Alors, je pense assez rapidement qu'il faut prendre en considération trois niveaux pour répondre à la question que vous soulevez. Donc, la première chose, c'est de faire en sorte que la transmission de savoir ou de la connaissance prenne une place importante dans notre société. Cela doit absolument pousser l'État à accorder une place importante à l'enseignant congolais. Quelle est la place de l'enseignant congolais au jour d'aujourd'hui? C'est là la question fondamentale. Lorsque l'enseignant est valorisé, il transmet des valeurs aux enfants. Mais avant que l'enseignant soit valorisé, il faut prendre en considération le système éducatif. Lorsque nos enfants, avant qu'ils aillent à l'école, combien de parents lisent des livres à leurs enfants pour transmettre le goût de la lecture? Il y en a très peu. Ce qui signifie que le système éducatif est mauvais. Il faut absolument qu'on s'y penche et qu'on apporte des réponses. Donc la première question, c'est quelle est la place de l'enseignant? La deuxième question, c'est quelle est la place que les Congolais accordent à la lecture? on doit tout faire pour promouvoir la lecture. Or, pour pouvoir promouvoir la lecture, on doit nécessairement encourager ceux qui lisent. Raison pour laquelle, puisque vous pensez aussi aux solutions, raison pour laquelle je propose à ce que l'État accorde deux types de prix. Un prix pour les meilleurs lecteurs et un prix aux meilleurs écrivains. Sans valoriser la lecture, et l'écrivain n'aura pas de place. Donc, pour que l'écrivain joue son rôle, il faut qu'on accorde beaucoup d'importance à la lecture. Et donc, la troisième question, c'est quelle est la place de l'écrivain dans la société? Quand je pose la question, quelle est la place de l'écrivain dans la société, l'unique façon de nous rendre compte, c'est de compter le nombre de bibliothèques que l'on trouve dans chaque quartier. Combien de librairies y a-t-il à Massina, à Singapani, ainsi de suite? Combien de librairies y a-t-il dans différents quartiers?
Voilà, on ne saura pas aller plus loin, dommage, avec vous, M. Félé, vous êtes au Cameroun. Je crois que prochainement, on va vous intéresser en début de l'émission pour que, finalement, on puisse apporter quand même une contribution importante. Merci beaucoup, on a retenu quand même ces trois pistes de solutions. On conclut cette émission avec vous, Richard Ali, directeur de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, et en même temps, écrivain également. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai que les écrivains ont déjà obtenu la fiscalité zéro du livre. Oui. Il reste encore d'autres combats.
Il reste son application.
Oui.
Il reste aussi à ce que le ministère de la Culture puisse absolument mettre en place toutes les structures qui puissent appuyer le secteur littéraire à Kinshasa, en RDC, je veux dire, qui puissent, n'est-ce pas, créer des prix littéraires. Les prix de créer pour les prix qui soient créés par le
prix littéraire, prix de la lecture, prix de l'écriture.
Voilà, mettre en place des bibliothèques, c'est pas grave, c'est une tâche difficile, des bibliothèques dans presque chaque territoire, pour Kinshasa, dans chaque commune, des librairies. Et c'est avec ça que les gens vont avoir le goût d'aller lire, mais aussi aider les éditeurs. Si on a beaucoup d'éditeurs nationaux qui reçoivent des subventions de l'État, on a ce qu'on appelle ici les fonds pour la promotion de la culture, qui n'a plus pratiquement pas le vrai artiste, qui n'a plus pratiquement pas le vrai écrivain. Je mets des mains
juste à quel chiffre d'affaires, mais c'est parce qu'on ne peut pas le chiffre d'affaires. Mais parce que d'abord, le montant de fonds, il a.
Mais ces fonds existent quand même. Et jusqu'en ces jours, les écrivains connus, le vrai écrivain connu, continue toujours d'attendre à recevoir des subventions, qui ne les reçoit toujours pas. Alors, c'est que les subventions sont des écrivains qu'on ignore même, et que le travail, on ne voit rien sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut quand même faire quelque chose.
En tout cas, les fonds en question, dès qu'on les collecte au niveau des contribuables,
oui.
Tout, c'est pour payer les employés,
le
personnel. Voilà, donc c'est difficile pour qu'on arrive quand même les gros partis, donc la grande partie.
Peut-être que vous connaissez.
Nous avons faire quand même des débats ici dans cette émission autour de ça, mais c'est quand même important par rapport à cette journée de l'écrivain à Pika. On va relancer encore le fonds de promotion culturelle pour qu'on arrive un peu à éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur cette question. Alors, il faut encore merci Richard Ali.
C'est mon travail.
Voilà, donc c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous, ensemble, en échangeant avec les auditeurs partout au pays et à l'étranger. Et vous étiez nombreux à participer à ces débats et à contribuer à ce niveau du débat, au niveau même de notre page de Facebook. Nous vous en remercions infiniment. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. Alors, merci à Dieudonné Niangassa pour la mise en onde de cette émission. Julie Pézabongonda était au standard. J.R. Lungembo, Luabou, Angie a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. On se retrouve demain, comme je l'ai dit. À très bientôt.